Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mais l'aise tremble, tremble être noyé.
Bienvenue dans un épisode spécial de la série Feuilles de chou. La série qui interroge et nourrit l'information du vivant. Chaque épisode relate une actualité dans ses moindres recoins pour comprendre ce qu'elle signifie pour le vivant. Dans cette lancée si réaliste, je vous propose ensuite un extrait d'un récit fantastique avant de connaître les rendez-vous et éléments précieux à ne pas manquer. Le sujet du jour ? 23 janvier 2023, fin du renouvellement des dérogations permettant d'utiliser des néonicotinoïdes. Qu'est-ce qu'un néonicotinoïde? Comment cette substance a été initiée dans les cultures? Pourquoi pose-t-elle problème pour les systèmes vivants? Et dans quelles circonstances l'arrêt de son utilisation est promulgué en France? Plus globalement, comment le vivant est affecté par l'utilisation d'intrants chimiques? Y a-t-il des alternatives qui s'offrent aux agriculteurs pour combiner vivant et production agricole? Les néonicotinoïdes sont une classe d'insecticides agissant sur le système nerveux central des insectes. Ils fonctionnent comme l'acétylcholine, un neurotransmetteur, et se fixent sur le récepteur de l'insecte au sein des synapses des cellules nerveuses, modifiant ainsi l'influx nerveux. En clair, cette molécule qui pénètre dans la sève de la plante joue un rôle important aussi bien dans le système nerveux central de l'insecte, où elle est impliquée dans la mémoire et l'apprentissage, que dans le système nerveux périphérique, notamment dans l'activité musculaire. L'insecte visé par ce produit est l'insecte ravageur des cultures. Avec cette molécule, il est déstabilisé et développe une sorte de paralysie nerveuse conduisant à la mort. Cependant, aucune substance introduite par l'humain n'est séparée de l'ensemble du monde vivant. Ce qui est absorbé par l'insecte ravageur de cultures, le puceron en l'occurrence, l'est également par les autres insectes et l'ensemble du réseau du vivant, animaux du sol, pollinisateurs, oiseaux. Le petit bonus auquel on ne s'attendait pas lors de son invention est que ce produit se dégrade très lentement et pénètre en profondeur, dans les sols, jusqu'à atteindre les nappes phréatiques, affectant ainsi de manière durable la fonctionnalité des sols et l'ensemble des interactions entre les organismes de l'écosystème, et parfois, à plusieurs kilomètres de distance du lieu traité. Les conséquences multiples pour le vivant sont couplées aux pratiques d'exploitation intensive et amenuisent fortement la diversité et la résilience du vivant face aux perturbations diverses, telles que le dérèglement climatique. Contrairement à ce qu'on pratiquait encore il y a 2 décennies, il n'est pas question d'asperger les cultures de ce produit synthétique, mais bel et bien de fonctionner avec des semences enrobées de ce traitement. La culture principalement concernée en France est la betterave sucrière. Un petit rappel sur l'historique de ce produit semble nécessaire. Le premier néonicotinoïde a été découvert en 1985 par Shinzo Kagabu, travaillant pour Bayer Crop Science au Japon. Il est mis sur le marché en 1991. 1999 et 2004, ce produit est interdit pour les cultures de maïs et de tournesol. 2016, suite à la loi biodiversité, les néonicotinoïdes sont interdits en France dès l'automne 2018. En 2020, la production de betteraves françaises a été affectée par une prolifération précoce et importante de pucerons, vecteurs du virus de la jaunisse. Une situation qui a conduit au vote fin 2020 d'une nouvelle loi réautorisant, pour 3 ans, par dérogation successive, l'usage de ces produits. Décembre 2022, à l'occasion de la COP15 de Montréal, tous les États présents, dont la France, s'engagent à protéger la biodiversité. Et en janvier 2023, l'incohérence entre l'engagement à la COP15 et la prolongation de l'utilisation de néonicotinoïdes est pointée du doigt par de nombreux organismes. L'État français annonce l'annulation de la prolongation et l'arrêt total de l'utilisation de ce traitement. Plusieurs alternatives existent à l'utilisation de ce produit et dans notre région Hauts-de-France, des pionniers veulent donner une impulsion pour la première région productrice de betteraves sucrières. Parmi ces pionniers, on peut citer à Gouzeaucourt, dans le Nord, l'agriculteur Sébastien Lemoine, 53 ans, qui est l'un des rares producteurs de betteraves sucrières bio en France. Dans notre pays, les betteraviers bio ne représentent que 0,5% de l'ensemble des producteurs de betteraves sucrières. Le désherbage est l'un des points déterminants pour cultiver en bio afin que les betteraves puissent résister à la concurrence. Et oui, car comme de nombreux autres légumes racines, le désherbage est obligatoire. Pas d'herbicide en bio signifie que le désherbage doit se faire à la main ou mécaniquement. Le coût de la main-d'œuvre à l'hectare est plus cher que le travail avec produits de synthèse. De même, les rendements sont moins importants en culture monospécifique. Cependant, le prix de vente en agriculture bio est 3 fois plus élevé. À cela s'ajoutent quelques astuces pour développer une connexion au territoire dans lequel la plante est cultivée. Pour y parvenir, il est nécessaire de s'intercaler dans les réglementations limitant la production de sucre au sein de l'Union européenne. Depuis 2016, l'association Bio, en Hauts-de-France, travaille sur un projet de micro-sucrerie bio, sous forme d'une coopérative dans le Nord. L'idée étant de produire du sucre cristallisé bio de façon la plus vertueuse possible. Ainsi, il est question d'ouvrir une micro-sucrerie d'ici l'automne 2024, où la tonne de betterave sucrière sera payée 100 euros au planteur. Dans la même lancée, pour pousser une valeur humaine et écologique ajoutée, plusieurs autres règles ont été édictées. Chaque adhérent de la coopérative ne pourra posséder que 5 hectares de betteraves sucrières au maximum, dans un rayon de 100 km autour de la micro-sucrerie. Les producteurs préférant la main-d'œuvre humaine au robot seront rémunérés davantage. Et l'irrigation sera interdite. Les industries n'ont pas de quoi s'inquiéter de la concurrence à cette heure. Pour 20 000 tonnes de betteraves par an en micro-sucrerie, il est possible pour les grosses industries sucrières de produire plus de 20 000 tonnes par jour. Des Bretons et d'autres régions s'intéressent à cette initiative répondant à la nouvelle réglementation en vigueur pour la culture des betteraves sans néonicotinoïdes. Bien que la vision burlesque d'un monde aux vivants déformés par nos produits de synthèse paraissent s'éloigner à mesure que la conscience du vivant s'insouffle dans le débat public, je vous propose de plonger dans un récit fantastique où les grosses bêtes intergalactiques sont le seul moyen de subsistance d'une humanité éloignée. Le cycle de Mars. Chapitre 3. Mon intrusion sur Mars. La toiture de cet édifice tout en verre devait bien avoir une dizaine de centimètres d'épaisseur. À l'intérieur, on voyait nettement répartis plusieurs centaines de gros œufs, parfaitement sphériques et d'un blanc de neige d'environ 80 cm de diamètre. 5 ou 6 d'entre eux venaient vraisemblablement d'éclore et les grotesques créatures qui se trouvaient là, clignant des yeux sous la vive lumière du soleil, me firent douter un instant d'avoir vraiment tous mes esprits, tant elles étaient abominablement laides et caricaturales. On aurait dit qu'elles n'avaient pratiquement qu'une énorme tête sur un tout petit corps étriqué, avec un cou allongé et 6 pattes en réalité, appris-je par la suite. 2 jambes, 2 bras et une paire de membres intermédiaires qui pouvaient servir à volonté soit de jambes, soit de bras. Les yeux, placés latéralement vers l'arrière du visage, un peu au-dessus de la partie médiane, se situaient à l'extrémité de pédoncules mobiles, leur permettant de se tourner en tous sens. De la sorte, ils pouvaient voir soit en avant, soit vers l'arrière, indépendamment l'un de l'autre. Ces êtres disposaient donc d'une vision à volonté, dans une seule direction ou bien, au contraire, selon 2 axes différents, ce qui leur évitait d'avoir à tourner la tête pour suivre un objet mobile. Les deux oreilles se situaient un peu au-dessus des yeux. Elles étaient rapprochées l'une de l'autre et ressemblaient assez à deux antennes en forme de coupe, formant une légère protubérance d'un ou deux centimètres, du moins chez les jeunes. Quant au nez, ce n'était qu'une simple fente longitudinale en plein milieu du visage, entre la bouche et les oreilles. Le corps n'était recouvert d'aucun pelage et la peau nue était d'un jaune pâle, avec des reflets verdâtres. J'appris par la suite que les adultes devenaient rapidement plus foncés, un vert olive, plus sombre chez les mâles que chez les femelles. De même, en grandissant, la tête n'était plus aussi disproportionnée par rapport au corps. L'iris de leur œil était rouge sang, comme chez nos albinos, avec une pupille noire et le globe d'un blanc éblouissant, de même que les dents. Ces dernières ajoutaient d'ailleurs à la férocité de leur aspect général. Les crocs de la partie inférieure s'incurvaient vers le haut, pareil à des défenses, et s'amincissaient jusqu'à devenir tranchants pour terminer en pointe à la hauteur où se trouvent les yeux dans le visage humain. Cette blancheur de la dentition n'était pas du tout celle de l'ivoire, ainsi que sur Terre, mais plus exactement celle de la neige ou encore de la porcelaine chinoise. Autrement dit, ces défenses se détachaient de manière frappante sur la teinte olivâtre et prenaient ainsi l'aspect d'armes formidables qui rendaient ces bêtes terribles à voir. Il va sans dire que je notais ces détails par la suite, car sur le moment, j'avais bien peu de temps pour réfléchir longuement à toutes ces étrangetés que je découvrais au fur et à mesure. D'autres œufs se fendaient et allaient visiblement éclore. J'étais tellement absorbée par l'apparition de ces hideux petits monstres en train de briser leurs coquilles de l'intérieur que je ne remarquais pas derrière moi la venue d'un contingent de Martiens. Munis d'antennes à poils sensibles, c'est grâce à ce dispositif qu'ils perçoivent les vibrations engendrées par les sons. Gare à celui ou celle qui pensait encore que l'infiniment petit était inoffensif. Preuve en est de ces fameux néonicotinoïdes. Nos peurs paralysent tout en donnant vie, pour celui qui le souhaite, à de nouvelles créations emblématiques.
Dans un pays de tous les temps, la plus belle des abeilles.
Parmi elles, on peut citer l'exposition Mini-Monde en voie d'illumination au Jardin des Plantes à Paris, qui s'est terminée en janvier dernier. Cette dernière invitait le public à explorer le monde des insectes via des œuvres originales de plusieurs mètres d'envergure, éclairées avec des ampoules LED à faible consommation. Cet événement est suivi d'une exposition mini-monstre qui se terminera le 23 avril à la Galerie de géologie et de la minéralogie de ce même Jardin des Plantes. Ce rassemblement d'œuvres met en lumière les prouesses des minuscules créatures qui provoquent souvent aversion et crainte. Le pou, la mouche, la tique, le moustique, la puce, la punaise de lit et l'acarien sont mis à l'honneur. Citons également l'exposition « Les insectes au secours de la planète » réalisé par l'Institut de recherche pour le développement. C'est un travail scientifique pour proposer de nouveaux équilibres écologiques face à la prolifération d'insectes ravageurs de cultures, phénomène grandement lié à nos propres activités d'exploitation et d'appauvrissement de la biodiversité.
Tu y as pêché où, baobab, d'acajou ?
Cette série reviendra au gré de la pousse du chou la semaine prochaine. Retournons écouter des amoureux de l'écologie cuisiner aux petits oignons.
Dans des landes palissandres, mais les œufs tremblent, tremblent être noyés.